Bien, ben voilà le temps venu pour répondre aux questions, à toutes les questions que vous vous posez. Ça ne sera peut-être pas facile, je dirais, on est peut-être devant une gageure. Je crois que depuis qu'on a ces journées du réseau, c'est la première fois que l'on a une seule journée, une telle variété de domaines scientifiques abordés, et aussi théologiques, à la fois et philosophiques. Donc, on va avoir des questions un peu dans tous les domaines, que ce soit la théologie, la physique, les mathématiques, la biologie, la biochimie, la biologie moléculaire, la génétique, l'évolution, la zoologie, etc., et la philosophie. Alors, qui veut commencer dans une de ces matières? Vous avez un micro qui va se promener pour ceux qui veulent... poser des questions. Alors, nous sommes à votre écoute et nos intervenants sont prêts à répondre à toutes vos questions. Enfin, j'espère. Oui, au fond à droite.
Oui, bonjour, merci. J'ai deux questions. Ma première question, c'est qu'est-ce que la théorie du process et qu'en pensez-vous? Ma deuxième question concerne, c'est après l'exposé d'Arne-Louis sur l'auto-organisation. J'ai essayé de transposer les principes que j'ai entendus dans votre exposé à ma morale et je me suis rendu compte que dans ce cas-là, le mal était peut-être privilégié par rapport au bien. C'est-à-dire que au lieu de chercher un emploi, gagner de l'argent et d'acheter quelque chose, il m'est beaucoup plus facile de voler. Voilà, je suis face à un problème si j'essaie d'appliquer ça dans ma vie. Et donc, oui, je souhaiterais avoir votre avis donc, sur ces deux questions, la théorie du process et l'auto-organisation dans ma morale. Merci.
Alors, qui voudrait répondre d'abord à la question sur la théorie du process?
J'imagine que c'est la théologie du process. Donc, dont vous voulez parler. Alors, mes souvenirs sont un peu vagues, mais justement, vous allez me corriger. Il me semble que c'est l'idée, en fait, que Dieu, justement, n'a pas déterminé tout dans l'histoire du monde, mais qu'il a laissé une partie libre, donc, au monde, aux potentialités de la création de se développer elle-même. Et on renonce à la fois à la souveraineté de Dieu et aussi à son omniscience. Donc c'est vrai que c'est une... Alors, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est bien cette position-là donc, qui est assez en vogue parmi des scientifiques théologiens dont, par exemple, Ian Barber. Je considère pour ma part que ça pose beaucoup de problèmes théologiques, disons. Hein, donc... et qu'il vaut mieux affirmer en même temps la pleine souveraineté de Dieu et la liberté de la créature avec les différentes potentialités de développement que de les opposer.
Et pour la deuxième question, le rapport à la morale.
J'ai bien compris, mais je n'ai pas beaucoup... à dire, sauf que bon, si on prend l'analogie, donc ce qui est aussi vrai que dans l'évolution il y a la sélection, et c'est que moi je veux dire qu'il y a des processus qui sont plus difficiles à trouver, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas plus importants pour la biologie. Parfois il y a par exemple, c'est possible que la raison que les objets qui sont plus complexes viennent plus tard en biologie, c'est parce qu'ils sont plus difficiles à trouver, mais en fait, ils sont aussi peut-être plus fit. Fécond. Donc, si on prend ça sur théorie des morales, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faciles à faire, mais qui ne sont pas plus féconds. C'est ça.
Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose?
Bon, moi, j'avais une autre question ou remarque par rapport à la... à l'idée du démon de la place, à l'idée d'une description complète possible du monde. Il me semble qu'il y a une espèce de limite absolue dans la mesure où on utilise des modèles mathématiques. Ces modèles mathématiques, c'est la continuité, c'est des descriptions avec des nombres réels qui, pour le dire de manière simpliste, sont décrits avec une infinité de décimales. Donc, ça, il me semble qu'on est dans une impossibilité de principe, pas seulement technique, d'avoir une description complète et exacte du monde avec un tel modèle.
Oui, j'ai l'impression que cette question est plutôt pour moi. Bon, moi, je pense que l'idée de la place n'est pas de faire cette description. Il dit qu'en principe, elle serait possible si... c'est donc une sorte d'expérience de pensée. C'est une... Pardon ? Voilà, en quelque sorte, si on était Dieu, les choses tourneraient ainsi. Mais bon, il y a beaucoup de choses comme ça en mathématiques. Pi a un nombre infini de décimales, et on prétend que, grosso modo, on connaît Pi parce qu'on le connaît un nombre, on peut le connaître, enfin, on peut calculer indéfiniment jusqu'à un nombre infini de décimales. Enfin, aujourd'hui, on en est à 200 ou 300 trillions de décimales, je ne sais pas combien. Mais ou bien par exemple, on peut parfaitement calculer la surface entre une hyperbole et son asymptote, et ça va pourtant jusqu'à l'infini. Donc, je pense qu'il s'agit vraiment d'expériences de pensée qui ont un sens. Et pour moi, l'affirmation de Laplace a un sens. Et je dirais, moi, je la porterais même dans le domaine quantique, comme je l'ai dit, même si c'est pas. Mais c'est quelque chose qui est inaccessible à l'homme.
Une autre question, oui.
Oui, je voulais vous remercier d'abord pour toute votre présentation qui était très intéressante. Moi, je suis ingénieur et en fait, dans ma pratique que j'ai plus envie d'appeler scientifique, je démarre du but et à partir du but, de la spécification de ce que je veux faire, je fais intervenir des objets mathématiques, physiques. Et dans tout ce qui a été dit d'explicatif et du monde, la cause... que j'ai bien aimé que vous différenciez entre la cause ultime et la cause originelle, la seule qui peut être exprimée, qui peut être prise en considération par la science, c'est celle du départ, et on a l'impression que celle de la fin, c'est celle de la théologie, mais qu'elle s'exclut l'une l'autre. Et je voulais avoir plus de vos réflexions sur cet aspect, que la science, est-ce qu'elle est limitée en elle-même, dans son expression même, de ne pas pouvoir poser une cause ultime? Ou quand ça a été dit pour l'auto-organisation, vous avez dit ben, si la cause ultime c'est l'homme, un processus stochastique c'est très efficace, mais de dire la cause ultime c'est l'homme, ce n'est pas scientifique. Donc j'étais troublé par vos réflexions.
Alors je crois que cette question concerne plusieurs d'entre nous. J'ai bien envie de passer le micro par exemple à Lydia après, mais je vais peut-être dire une première réflexion, je dirais, pour ma part, je crois que ma conviction, c'est que nous avons tous une profession. Le physicien a une profession, le philosophe en a une autre. Et ces professions, je dirais, elles ont une sorte d'ontologie. Et pour moi, ça, c'est très important, parce que cela indique la cohérence à l'intérieur d'une profession. Si, par exemple, pour l'expliquer, je dirais, si vous avez un crime qui est commis et qu'il doit y avoir un jugement, eh bien, on attend l'avis de diverses professions. On attend l'avis, je dirais, du physicien ou de la personne qui va établir les faits, ou, par exemple, l'avis du détective. On va demander l'avis du médecin, l'avis du psychologue, l'avis du pasteur, pour un jugement moral, l'avis de l'homme de droit. Et on n'attend pas du pasteur qui donne un avis de droit, on n'attend pas du juriste qui donne une appréciation psychologique. Et en fait, Ça veut dire que la vérité va dépendre de la science que vous appliquez, en quelque sorte. Ça doit obéir à une sorte de logique, de démarche cohérente pour répondre à certaines questions. Et donc, pour moi, les questions qui sont d'ordre théologique ne doivent pas être posées à un physicien. Les questions d'ordre mathématique ne doivent pas être posées à un physicien. Et vice-versa, les questions physiques ne doivent pas être posées à un mathématicien. Et par conséquent, je dirais, pour moi, c'est plutôt des plans parallèles. Et ce sont des méthodes que l'homme a découvertes ou qu'il a reçues de Dieu par les capacités qu'il a. Ça, c'est mon avis de croyant. Et elles nous servent toutes à quelque chose. Parce que, par exemple, on a trouvé un coupable. Au vu de la loi, il sera coupable, mais peut-être au vu de l'éthique, il ne sera pas. Et le juge, il doit, quelque part, prendre tous ses plans pour faire une décision pour la société, hein, pour le bien de tous. Et on ne peut pas, je dirais, facilement rechercher la cohérence entre ces différents plans. Voilà. Pour ma part, c'est comme ça que j'aimerais dire, je ne veux pas faire le lien nécessairement entre ces différentes choses. Et c'est pour ça qu'en tant que scientifique, c'est peut-être aussi une certaine réponse à des choses qui ont été exprimées ce matin. Je ne crois pas que, quelque part, d'être croyant m'aide particulièrement à faire de la science. Et d'ailleurs, c'est visible qu'il y a d'excellents scientifiques qui ne sont pas croyants. Mais si je prends mon point de vue de croyant, je peux me dire peut-être que c'est plus facile pour un chrétien de faire de la bonne science puisqu'il est plus proche du Créateur. Mais visiblement, c'est quelque chose qui a été donné à tous.
Alors, je répondrai sur un angle très différent parce que donc il y a effectivement le type de causalité aussi qui est en cause, et c'est vrai qu'au moment de la révolution scientifique au XVIIe siècle, il y a eu une volonté par plusieurs qui ont formulé la méthode scientifique moderne d'exclure les causes finales. Donc tout doit être expliqué donc par une causalité donc efficiente, donc par la production donc de choses, et non pas par leur but. Alors, bon, il y a des grandes discussions ensuite chez Kant, justement, parce que ça marche assez bien en physique, mais dès qu'on aborde la biologie, ça paraît quand même, disons, à première vue, les organismes vivants semblent être construits dans un certain but, disons, pour fonctionner d'une certaine façon. Et je n'ai pas tout dit sur un œil quand j'ai expliqué son émergence, ou sa production, c'est, il est là pour voir. Et donc, je pense que dans le travail de l'ingénieur, il y a justement cette cause finale, elle joue un très grand rôle. Maintenant, est-ce que la méthode scientifique demande, exige l'exclusion des causes finales? Là, je pense que les avis divergent. Ce qu'on peut constater quand même chez les premiers scientifiques, parce que c'est Robert Boyle, il y a tout un discours sur l'exclusion des causes finales, mais en fait, quand il se met à faire de la science, les causes finales reviennent. Et est-ce qu'on peut faire de la biologie, par exemple, sans cause finale? Et est-ce que c'est tout à fait interdit d'y avoir recours, etc. Bon, je n'ai pas suffisamment approfondi la question, mais ma réaction serait que peut-être en tant que chrétien, on pourrait être moins dogmatique, justement. Disons, et peut-être avoir, même là, au niveau des causalités, donc une approche plus large, et de dire je n'exige pas absolument une explication réductionniste en termes de causalité efficiente, et je peux prendre en compte qu'il y a aussi un but qui est poursuivi, alors de façon ultime, pour le monde dans son ensemble, mais aussi reconnaître l'action humaine, par exemple, et qui fait intervenir la causalité finale. Donc, bon, en psychologie, ça serait le behaviorisme, justement, qui est essayé, je veux dire, aussi de tout réduire à des causalités purement psychologiques, disons, et de reconnaître que l'homme poursuit des désirs, par exemple, qui lui sont inhérents, et qui relève aussi d'une certaine réflexion rationnelle, justement, ça paraît tout à fait exclu. Il me semble là qu'on devrait être plus téméraire aussi par moment de remettre en cause une certaine méthodologie scientifique réductionniste et qui est bien féconde dans certains domaines et pas dans d'autres.
Cette fois-ci, je ne sais pas si c'est permis, mais je vais m'adresser par rapport peut-être à ce que Lydia vient de dire. Donc une réflexion par rapport au réductionnisme. Moi, j'aurais tendance à dire que le réductionnisme, c'est une technique de pensée, tout d'abord, et qui est en fait extrêmement intéressante. Cela veut dire, je pousse jusqu'au bout une idée sur la base de quelques idées fondamentales et je regarde ce que ça donne. Le problème, donc pour moi, les réductionnismes, tant qu'ils ne sont pas pris comme vérité finale, mais comme avec ces hypothèses-là et ces mécanismes-là, et si j'essaye de tout réduire à ces mécanismes, voilà où j'arrive. Et donc, je dirais, ce sont des étapes intermédiaires de réflexion qui sont très utiles. Mais peut-être que vouloir s'en tenir à un réductionnisme, c'est vouloir mettre des œillères, peut-être, parce qu'il y a d'autres réductionnismes qui seront peut-être tout à fait aussi intéressants, mais qui fonctionnent peut-être justement comme sur d'autres plans. Hein. Le psychologue va tout réduire à sa psychologie, le physicien va tout réduire à sa physique, et en fait, tous ces plans ont quelque chose à nous apporter sur le global.
Le biologiste va réduire aussi sa recherche avec ses modèles qui vont essayer de pousser jusqu'au bout pour comprendre un petit parti en fait du fonctionnement de l'organisme. Mais après, l'intérêt, c'est de replacer ces conclusions tirées du modèle dans une globalité. Et c'est là qu'on peut intervenir à différents niveaux, utiliser différents apports scientifiques ou approches scientifiques. D'autres questions derrière, à côté même.
Oui, j'aurais deux questions. L'une, c'est sur les mathématiques. Est-ce qu'on peut considérer que les mathématiques sont de l'ordre de la création de Dieu comme un continent que le mathématicien explore? Ou est-ce que c'est une construction simplement de l'esprit humain dans laquelle on n'a pas besoin de Dieu a priori pour progresser? Et deuxième question concernant les miracles. Est-ce qu'on peut accepter sans recul critique, je dirais, certains miracles où Dieu semble totalement violer les lois qu'il a lui-même données à l'univers? Je pense que l'exemple le plus flagrant, c'est celui de l'arrêt du soleil à Gabaon, récit sur lequel je crois Émile Nicole a écrit quelque chose. Donc, est-il permis de relire peut-être avec une interprétation différente ce genre de récit?
Je ne vais pas répondre sur les mathématiques.
Ouais. Donc, bon, je croyais.
Oui, je pense que la majorité des, une bonne partie des miracles qui sont racontés dans l'Écriture sont des miracles qu'on pourrait appeler de coïncidence. C'est-à-dire que l'événement peut être expliqué par le jeu des lois habituelles, mais il se produit à un moment crucial où il se produit, et il se produit avec une parole qui... Par exemple, Moïse lève son bâton et la mer rouge, enfin la mer des joncs s'efface et les Hébreux peuvent traverser. Il peut y avoir des explications rationnelles, mais le miracle, il est dans la coïncidence. Bon, les guérisons de Jésus ou les résurrections ne sont pas de cet ordre-là. Alors pour Josué. Est-ce que le soleil a vraiment été arrêté ou est-ce que c'est une façon de présenter l'événement? Dans cet événement, il y a un orage et il y a des pierres qui tombent ou des grelons qui tombent sur les ennemis d'Israël. Et
Je pense que le texte peut être interprété de la manière suivante. Lorsque Josué s'adresse au soleil, il lui dit de se taire. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que ça signifie que le soleil n'a pas été visible et qu'il y a eu une obscurité qui a permis aux Israélites de l'emporter sur leurs ennemis, parce que c'est précédé d'une attaque de nuit? Donc il y a la surprise de l'attaque au petit matin. Et si ce matin intervient un orage qui obscurcit le ciel, ça augmente la surprise. Et donc le soleil ne s'est pas arrêté. Il a continué, enfin la Terre a continué de tourner autour du soleil, mais le soleil n'a pas été visible. Et donc ça a permis à Israël de remporter une victoire plus décisive. Si l'on s'engage dans cette voie-là, il y a une difficulté qui peut surgir. Pourquoi est-ce que le narrateur dit que c'est un événement tout à fait exceptionnel, c'est la seule fois où il n'y a pas eu d'autres exemples où Dieu ait écouté la parole d'un homme de cette façon-là, un homme qui s'adresse au soleil et qui lui dit de s'arrêter ou de ne plus donner sa clarté. Ce qui paraît très particulier dans ce miracle, c'est que celui qui accomplit le miracle s'adresse au soleil lui-même. Au lieu de prier Dieu, au lieu de demander à Dieu d'intervenir, il dit « Soleil, arrête-toi ». Et en effet, dans l'Ancien Testament, on ne trouve aucun autre exemple de ce type. Il faut attendre le Nouveau Testament où Jésus dit à la mer de se calmer. Et l'homme, l'élément obéit à l'être humain. Bien sûr, parce que Dieu le veut bien, parce que c'est Dieu qui intervient. Donc voilà quelle serait ma réponse à propos de l'événement de Josué. Parce que l'hypothèse que la Terre se serait vraiment arrêtée de tourner autour du Soleil, je pense que du point de vue physique et astrophysique, ça pose d'énormes problèmes. Hein.
Qui veut répondre pour l'aspect de la question sur les mathématiques?
Donc c'est une question très fameuse. Est-ce que si on parle avec les mathématiciens ou les gens qui font la philosophie des mathématiques, ils sont en fait deux camps, un contre l'autre, qui disent non, la mathématique c'est quelque chose de platonique, c'est vraiment là, même si nous c'est comme un continent. Et les autres qui disent non, c'est tout créé par homme. Donc souvent les physiciens sont dans le camp des platoniques, parce que on voit, il y a une, je ne sais pas comment on dit en français, mais en anglais il y a une expression qui vient d'une physicienne, Eugene Wigner, the unreasonable effectiveness of mathematics. Ça veut dire le fait que la mathématique est très efficace dans les sciences naturelles, une manière qui donne l'impression d'être pas raisonnable parce que c'est si fort. Un des exemples que moi j'aime beaucoup, c'est Paul Dirac, un grand physicien, en fait il était anglais d'origine francophone, à Cambridge, qui s'avait demandé, si je prends la mécanique quantique, donc la physique des particules très petites, et je veux faire une combinaison avec la physique des relativités spéciales d'Einstein, donc c'est-à-dire des choses qui bougent très vite. Quand tu prends l'équation de Schrödinger, qui est pour la mécanique quantique, et tu veux que ça transforme par les lois qu'a découvertes Einstein en 1905 pour la relativité spéciale, c'est qu'on trouve qu'il n'y a pas une manière mathématique de le faire pour les électrons sans qu'il y ait un autre objet qui entre. Et c'est les mathématiques qui, en fait, nous forcent de mettre ça. Donc lui, des grands physiciens mathématiques, il dit, bon, c'est ça que les mathématiques nous donnent, c'est ça que je vais écrire. Donc il a fait ça en 1928. Et en 1931, c'est Carl Anderson à Caltech qui a trouvé le positron, qui était donc l'autre objet. Donc pour les physiciens, quand ils voient quelque chose comme ça, ils disent, mais c'est pas nous qui avons créé cette mathématique, c'est la mathématique qui était déjà là, qui s'est imposée sur nous. Donc c'est pour ça qu'on parle de que c'est en fait c'est pas raisonnable que ceci que ça marche très bien. On sait ça, c'est pas une quelque chose de profondément philosophique, c'est plutôt quelqu'un qui fait la pratique et qui trouve souvent que la mathématique et nous laisse à regarder beaucoup plus profondément dans la nature qu'on than we deserve, comme on dit en français. Que... Voilà.
Oui, moi je trouve très, très intéressant votre question et d'autre part ta réponse. Ce que j'aurais tendance pourtant à penser, personnellement j'ai changé d'avis sur ce sujet il y a une quinzaine d'années. En tant que physicien, j'avais toujours pensé que la seule réalité qui existait était la réalité physique. Et je pensais toujours que les mathématiques sont une construction humaine. Et je considérais que justement le fait que les mathématiques, quelque part, décrivent la réalité comme une sorte de mystère ou de signe que Dieu avait mis en nous quelque chose qui nous permettait de faire cela. J'ai changé d'avis parce que tout d'un coup je me suis dit, mais Marc-André, tu te trompes. En fait, ce n'est pas l'homme qui a créé les mathématiques. Et je pourrais faire un argument là-dessus. Pourquoi ? Parce que si c'est l'homme qui crée, il crée ce qu'il veut et il le crée d'un bout à l'autre. En fait, le mathématicien qui fait des mathématiques, il pose des hypothèses, c'est lui qui les crée avec des guillemets, mais en fait, il ne crée pas la conclusion. De ces hypothèses peuvent découler des conclusions qu'il n'a même pas imaginées. Et ceci, pour moi, tout d'un coup, ça a été comme une lumière. Je me suis dit, mais alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je fais des mathématiques, quand je pose mes hypothèses, c'est un peu comme si je décidais de la porte d'entrée d'un labyrinthe, mais je ne décide pas de la sortie. Et donc, ça veut dire que je me balade dans un labyrinthe que je n'ai pas créé moi-même. Je suis donc dans une réalité extérieure, mais qui n'est pas de l'ordre de la réalité physique. Donc j'ai été obligé d'élargir ma vision de la réalité. Et c'est là où j'aurais plus de réserves par rapport à l'idée que la physique supporte les mathématiques ou les mathématiques la physique. Je crois que pour moi ce sont des plans ontologiques séparés. Ce qui fait des bonnes mathématiques, c'est quelque chose qui est sain du point de vue de la démarche ontologique de la mathématique. Et je pense qu'il existe des théorèmes qui n'ont pas d'implication dans la réalité matérielle. Et que la physique, elle se prononce éventuellement sur des éléments de la réalité physique, et son but c'est de se prononcer là-dessus, c'est pas de se prononcer sur des mathématiques. Donc pour moi c'est des plans parallèles qui mystérieusement se touchent, mais en plus c'est des plans parallèles qui pour moi font partie de la réalité. Et j'ai partagé ceci avec des amis mathématiciens, j'ai partagé ma découverte en fait, parce que je n'ai pas l'impression que du point de vue des physiciens il y a vraiment cette idée que les mathématiques font partie de la réalité. En tout cas, pas distribuées, je dirais, dans la communauté qui réfléchit peut-être pas beaucoup aux implications philosophiques de la physique, mais juste de la physique de tous les jours. Donc j'ai partagé ceci avec des mathématiciens et ils m'ont dit, mais Marc-André, tu es platonicien. Donc ça va un peu dans ce sens-là. Et en fait, j'ai réalisé que beaucoup, beaucoup de mathématiciens, effectivement, sont platoniciens. Donc, partage l'avis que vous avez donné. Mais j'utilise souvent cette idée qu'il existe quelque part un monde créé qui est de la nature de la réalité, mais qui n'est pas matériel, pour justement on vit dans une société matérialiste, dans un monde scientifique même très imprégné de matérialisme, pour, je dirais, aiguillonner, peut-être, ou je ne sais pas, taquiner, ou je ne sais pas comment dire, mais provoquer, voilà, certains de mes contemporains, peut-être à l'idée d'une réalité spirituelle aussi, qui n'est pas d'ordre matériel, mais qui n'en serait pas moins réelle. C'est ça la question, parce que les mathématiques, pour moi, sont de cet ordre. Elles ne sont pas d'ordre spirituel, mais elles sont d'un ordre d'un réel non matériel.
D'autres questions ?
Oui, j'avais deux questions, remarques. En effet, le premier, c'était par rapport au libre arbitre, parce que plusieurs d'entre vous, pendant les différentes présentations, ont fait appel au libre arbitre dans une façon qui me semblait un peu absolue, mais peut-être ça c'est juste, je n'avais pas bien compris. Mais quand on réfléchit, on voit, par exemple, Paul, il dit qu'on est esclave du péché. Bon, les gens, sans l'intervention de Dieu, sans l'action de l'Esprit de Dieu, on est esclave du péché. Ça met pas le libre arbitre, c'est que seul Dieu qui a ça de façon absolue, pour moi. Mais c'est plutôt une réflexion théologique, comme on pourrait peut-être discuter. L'autre remarque, c'était beaucoup plus technique, et c'était une question peut-être pour les biologistes qui sont là. Je suis physicien et chimiste, et c'était pendant la présentation de donnée par Lydia sur le principe d'Heisenberg, et on a fait le calcul pour démontrer que l'incertitude d'Heisenberg ne peut pas jouer dans les processus biologiques. On a l'incertitude dans l'énergie, l'incertitude dans le temps et doit être supérieure à un petit nombre relié à une constante de Planck. Le temps caractéristique donné, c'était 10 microsecondes. Mais pour moi, beaucoup de processus, il y a beaucoup d'ordres, différentes échelles dans les processus physiques, et 10 microsecondes pour moi semble beaucoup trop longue. Le transfert d'un proton peut se faire en 10 femtosecondes, c'est-à-dire 10 puissance 9 fois plus vite que ça. Et donc, ça, pour moi, ça, j'ai du mal à suivre l'argumentation. Mais bon, ça ne change rien, c'est vraiment technique, mais ça m'intéresse un peu en tant que physicien.
Et alors, bon, pour la deuxième question, effectivement, c'est fort regrettable que Peter Clark n'est pas là. Alors, vous avez raison de souligner que l'estimation de ce temps est absolument essentielle pour que son argument marche, parce que comme c'est le produit de l'incertitude du temps et l'incertitude de l'énergie qui doit être inférieure à une certaine limite, non, si on réussit à réduire le temps de façon aussi drastique que vous le suggérez, évidemment, donc ça donnerait plus d'espace ensuite pour que des effets quantiques interviennent. Là, effectivement, là, je ne peux que retourner la question à la salle et voir s'il y a un neuroscientifique parmi nous ou un biologiste qui pourrait dire quelque chose sur cette estimation.
On pourrait peut-être donner quelques éléments de réflexion là-dessus. Je dirais, il y a aussi une notion de masse des particules en jeu qui ont une inertie et qui fait que si effectivement un ion peut peut-être traverser en quelques femtosecondes, le canal par lequel ça va transiter pour s'ouvrir, il va lui falloir, lui, de l'ordre de la microseconde. Et c'est ce changement, en fait, qui vont être limitants dans le temps. Donc, voilà, c'est cette notion, en fait, de dynamique membranaire qui prend le pas sur la dynamique atomique, si on veut. Et du fait, du rapport de masse des particules en jeu par rapport à peut-être des atomes ou des ions.
En effet, Peter, il avait reformulé, parce que le principe d'Heisenberg peut être formulé en termes de masse et position, ou bien en termes d'énergie et temps. Et donc, c'était dans la formulation énergie-temps qu'il avait parlé. Mais,
Peter Clark, bon, peut-être accordez-lui quelques jours là dans ce qu'il vit, mais sinon après, donc il est très réactif par mail, d'ailleurs même actuellement, ça m'impressionne là. Mais je veux dire, il est quelqu'un, donc on peut tout à fait interroger. Donc je vous conseille de le contacter peut-être d'ici 15 jours, 3 semaines pour lui poser la question, comment il est arrivé à cette estimation.
Il faut dire qu'il y a les autres. Il y a tout un domaine de biologie quantique qui est en train d'agrandir assez vite. Et donc là, pour longtemps, l'idée c'était que c'était les arguments du type que Peter a utilisé, les arguments de décohérence, qui disaient que tous les effets quantiques vont disparaître parce qu'il y a toute une frottement en fait qui se passe, mais donc il y a parfois possible qu'il y a des quand même la cohérence quantique qui peut rester dans les états spéciaux, mais c'est pas, on n'a pas encore trouvé dans les cerveaux quelque chose qui donne cette impression. Vous faites la chimie donc et la physique, donc c'est un peu dans ce même domaine qu'on voit le photosynthèse, par exemple, ou bien... je pense que le jury n'a pas encore retourné sur cette question.
Merci.
Alors, peut-être, pour la première question, donc, par rapport au libre-arbitre, et en fait, ce que vous abordez, c'est plutôt le serf-arbitre. Hein, donc, Luther, pour réagir contre Erasme, donc, a forgé le terme de serf-arbitre, justement pour dire que l'homme n'est pas libre, parce qu'il est pécheur. Maintenant, je ne crois pas qu'il faille comprendre l'enseignement biblique sur le péché comme une négation de la liberté de l'homme, en tout cas de la responsabilité de l'homme. Et donc, nombre de commandements bibliques, par exemple, ainsi de l'homme à choisir, hein, choisis la vie et tu vivras. J'ai placé devant toi la vie et la mort, donc choisis la vie et tu vivras. Tous les commandements éthiques, etc. Donc il y a quelque chose quand même de l'ordre du choix, disons, que l'homme doit poser, et donc de la liberté. Évidemment, après, ça introduit une autre question, hein, comment cette possibilité de choisir est influencée, diminuée par le péché. Quand on réfléchit à l'articulation, hein, donc avec la science, c'est vrai qu'assez souvent on fait abstraction du péché. Hein, donc on est toujours dans le monde créé. Je plaide coupable. Je réfléchis régulièrement donc à la création du monde et en faisant abstraction, disons, du péché. Je pense quand même qu'il y a une justification théologique partielle à cela. Que justement le péché dans la création biblique est intervenu historiquement dans la création. Donc le monde a été créé bon par Dieu et l'homme aussi. Hein. Donc on a cité le texte d'Ecclésiaste. Donc tu as créé l'homme droit. Il a cherché toutes les perversions. Et disons, je cite là, j'exagère peut-être un peu ce qu'il l'Ecclésiaste, mais en tout cas tu as créé l'homme juste et il a.
Oui, alors, le terme qui est employé par l'Ecclésiaste n'est pas un terme qui est très marqué. Il a cherché des inventions. Mais on voit bien que derrière ce terme qui est très commun se cache quand même. Je pense qu'il y a une part d'ironie dans l'utilisation de ce terme des inventions. Parce qu'on voit bien à quoi mènent ces inventions humaines.
Et donc je pense que ça, c'est comme la justification théologique, hein, de réfléchir aussi au monde créé en tant que tel, ou à l'homme aussi en tant que créature de Dieu, et donc sans faire intervenir tout de suite le péché. Alors dans un deuxième temps, il faudrait faire intervenir le péché. J'ai vu très peu d'ailleurs de réflexions sur ce thème-là, en tout cas dans le domaine science théologie ou même philosophie, hein, philosophie et théologie. Je trouve que c'est pas évident d'ailleurs de savoir ce que serait le péché sur un plan scientifique, disons. Voilà. Donc il me semble qu'il y a là tout un champ, hein, de réflexion ouvert, mais que les questions qu'on se pose par rapport à l'articulation entre déterminisme, indéterminisme d'un côté et liberté humaine de l'autre restent intactes.
On a juste le temps pour une dernière question avant le temps imparti pour notre table ronde.
Oui, alors moi en fait c'est une question probablement qui va avoir attrait à la philosophie et à la théologie. En fait, donc je m'intéresse pas mal au nouvel athéisme, hein. Et je prends deux exemples, hein, Michel Onfray, donc le philosophe français, hein, donc qui écrit le traité de la théologie, et André Comte-Sponville, qui écrit l'esprit de l'athéisme. Et en fait, dans ces livres-là, on a toujours l'impression qu'ils vont développer des arguments donc contre l'existence de Dieu, etc., mais simplement du point de vue de l'épistémologie, souvent, et de l'axiologie. Ils vont souvent être très habiles à pas trop parler de l'ontologie des sources, à pas trop parler de la destinée. Et ma question est-ce que vous pensez que, enfin, à quel type d'ontologie est-ce qu'ils souscrivent, en fait? Parce que, alors, moi, je me demande à chaque fois, là, on parle du hasard aujourd'hui, donc, ils semblent souscrire, eux, en tout cas, par rapport à l'apparition de l'homme, il me semble qu'ils souscrivent à l'évolution darwinienne, donc les mutations aléatoires, etc., pour les espèces, mais quand il s'agit d'ontologie, ils restent silencieux. Alors moi, ma question, c'est, dans ce genre de développement, quelle place est-ce qu'ils ont pour le hasard quand il s'agit de l'ontologie, en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'ils voient comme un espèce de hasard ontologique, mais qui n'est jamais vraiment bien défini? Et si oui, alors, quelles sont ses caractéristiques à ce hasard-là, que eux, ils invoqueraient dans leurs présuppositions? Et puis, comment est-ce que vous, vous confronteriez ce genre de vision du monde? Voilà. Là où on se contente comme de choisir un petit peu, ah ben, quand ça m'arrange, je vais prendre le hasard, mais je vais jamais parler de l'ontologie, et je vais pourtant critiquer la vision du monde chrétienne. Donc, enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu.
Alors, je me risque à une réponse très partielle. Hein. Déjà, je ne suis pas sûre qu'il faille classer tous les auteurs que vous citez parmi le nouvel athéisme. Et je ferai une distinction assez nette entre Onfray d'un côté et Comte-Sponville de l'autre. Alors, je n'ai pas encore lu Comte-Sponville, donc c'est sur ma liste de lecture, et j'espère m'y attaquer très prochainement. Mais ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu de lui, et ce que j'ai pu, les bribes que j'ai lues, me laisse penser qu'il a une pensée intéressante et avec laquelle, effectivement, cela vaut le coup d'entrer en dialogue. Alors, pour l'instant, je ne peux pas encore vous dire comment, parce que je ne l'ai pas encore lu. Sur Onfray, mon jugement est beaucoup plus sévère. Et justement, j'ai lu le traité de la théologie parce que je le donnais comme un livre à lire dans mon cours d'apologétique, parce que je souhaite que mes étudiants lisent un livre écrit par un penseur non chrétien, justement, et essayent d'entrer en dialogue. Et une fois que je l'ai lu, je l'ai retiré de la liste parce que j'ai considéré que je pourrais écrire un meilleur livre de défense de l'athéisme que l'ouvrage en fait, et qu'il fallait, d'ailleurs je dirais à peu près la même chose sur Dawkins, et que ses arguments sont extrêmement faibles, et ce qu'il lui faudrait davantage, c'est peut-être une psychanalyse qu'une argumentation rationnelle. À vrai dire, la vraie question aussi pour Dawkins que je me pose, c'est moins comment répondre à ses arguments, mais de comprendre pourquoi des arguments qui sont si mauvais trouve une si grande audience. Pour moi, c'est ça la vraie question, pour un auteur comme Dawkins ou pour Onfray. Mais je n'ai pas du tout le même préjugé, en tout cas, sur Comte-Sponville. Et donc, je pense qu'il y a là vraiment quelque chose à faire. Alors, quelqu'un qui a travaillé, je crois en tout cas Onfray, mais peut-être aussi Comte-Sponville, c'est Philippe Serraggi, qui fait un doctorat actuellement à la faculté Jean Calvin, donc à Aix-en-Provence, et qui est directeur de l'Institut Théologie du Soir. Si vous voulez, je pourrais vous mettre en contact. Je pense qu'il aurait des éléments intéressants à vous communiquer.
J'ai pas lu ces auteurs français, mais je connais assez bien les nouveaux athéistes originaux comme Dawkins, Harris. Et ce qui, je pense, est important de. Donc je vais donner une anecdote et qui peut-être c'est une sorte de réponse à ta question. Donc il y a un an et demi, j'étais à Oxford, j'étais dans un débat. Organisé par la société des athéistes et par la Richard Dawkins aussi, il était là, il était un des organisateurs. C'était moi et un philosophe Richard Swinburne contre un une scientifique, Peter Atkins, et une autre philosophe, Stephen Locke, qui est athée. Nous, on a fait notre chose normale. Atkins a fait ces choses un peu bizarres, mais tout en normal. Et là, il était en train de faire une défense de la philosophie. Et je me suis pensé, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est ici pour nous faire un débat, mais pas pour une défense de philosophie. Qui fait ça? Après, Jude Hawkins était là, il commençait à parler et de dire, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, au fin de cette histoire, Jude Hawkins a dit, bon, Stephen, c'est OK. Mais c'est que toi, tu dis c'est philosophie, moi je accorde à thinking, c'est penser. En autre cas, il n'aime pas du tout la philosophie. Si tu commences avec des mots comme ontologie et postologie, tu dis, ah, c'est tout des. Parce que c'est clair. C'est clair comment on pense avec. C'est clair. Et c'est que toi, tu dis ça, c'est la philosophie, c'est pas un sujet qui est intéressant, pas un sujet qui est important, parce que c'est clair comment il faut penser d'une manière claire. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un parle comme ça? Il n'y a pas beaucoup à faire, en fait. Donc, si tu veux me demander, mais qu'est-ce qui est votre ontologie? Il m'a dit, mais arrête-moi avec ces questions, c'est clair. Et c'est... Il va éviter parce qu'ils disent, parce qu'en fait, c'est qui est bizarre, c'est ce qu'il y a dit, c'est pourquoi des gens intéressants, qui sont drôles, qui ont qui sont très bons rhétoriques, mais quand tu pousses un petit peu, il n'y a pas beaucoup qui restent. Et la difficulté, parfois, c'est si tu veux donner un contre-argument qui est subtil, qui demande des questions difficiles, ils ne sont pas intéressés, en fait, ils font une sorte, je ne vais pas dire en anglais, mais ils vont
contourner.
Contourner, pardon, c'est ça.
En tout cas, ça répond bien à la question.
Bien, merci pour vos questions et merci encore à nos participants à la table ronde, à nos orateurs.